Micro Méga, Patrick Chompré.
Bonjour et bienvenue dans l'actualité scientifique de la semaine. C'est Micro-Méga, troisième et dernière partie. Avec vous, Jean-Yves Casgat. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour Patrick.
Ça va bien?
Bah oui, moi je me sens très estival. Je suis venu avec mon masque, mes palmes, mon maillot, mon tuba, enfin tout ça.
Ça ne m'étonne pas de vous. Dans l'actualité scientifique de la semaine, les derniers résultats scientifiques du satellite Corot. On a trouvé une super Terre, la plus petite planète extrasolaire jamais découverte. Ça va intéresser notre invité multifacette. Micro-Méga. Et notre invité, Jean-Yves, c'est Alfred Vidal-Majar. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, vous travaillez à l'Institut d'astrophysique de Paris. Vous avez écrit de nombreux livres et publications dans les revues scientifiques et votre spécialité, c'est donc les exoplanètes. Bon, déjà, bon, c'est vrai que les derniers résultats scientifiques de Corot, on va en parler tout à l'heure. On a quand même trouvé une super Terre. Ça vous inspire quoi comme ça?
Oh, ça m'inspire toujours un frisson, une excitation, parce que trouver une Terre, même une super Terre, c'est encore un objet complètement nouveau. C'est inattendu, on n'a pas ça, c'est pas inattendu. On sait qu'on va vers ce genre d'objet, mais il faut les trouver. Une fois qu'on les trouve, on a entre les mains quelque chose de franchement nouveau. Et là, il faut le dire, pour la première fois, on est presque à une Terre, c'est-à-dire à un objet qui a une très forte densité. Les planètes géantes, comme les gazeuses, Jupiter, Saturne, tout ça, on en a trouvé beaucoup. Elles sont plus lourdes, plus faciles à trouver. Mais des petites, comme les Terres, très denses, très compactes.
Pas facile, hein.
Pas facile, il n'y a pas trop d'atmosphère, il y a peut-être des océans dessus, il y a peut-être... En tout cas, c'est nouveau, et ça ressemble pas tout à fait à ce qu'on a chez nous, mais déjà plus à ce qu'on connaissait jusque-là.
Mais encore un peu, le chasseur de planètes n'aurait pas été chasseur de planètes, parce que Alfred Vidal-Majar, vous avez fait les championnats de France universitaires de natation, ce qui explique ma tenue, là, dans ce studio.
Avec les palmes et le tuba.
Absolument. C'est vrai que vous auriez pu faire une autre carrière.
Oh non, de la natation quand même pas, mais j'avoue que j'ai tellement aimé nager que je me suis beaucoup entraîné pour arriver à ces championnats de France. Et alors si j'ai un résultat, un record. J'ai détenu un record quand même, 17 ans. Et ça, j'étais vraiment fier parce que j'ai fait une école qui s'appelle Polytechnique. Et à l'école Polytechnique, on enregistre les records. Et à un moment donné, on a été une équipe de 4 dans notre promotion qui ont réussi un 4 fois 100 mètres nage libre. Et ce 4 fois 100 mètres, le record a été détenu pendant 17 ans, au point où j'allais comme enseignant à Polytechnique des années plus tard.
Et on disait, mais vous êtes le même?
Et je disais à mes élèves, allez voir à l'entrée de la piscine, vous allez voir mon nom sur le panneau. Et là, ils étaient vraiment impressionnés.
Alors, et c'est pas l'époque Johnny Weissmuller, c'est plutôt l'époque Alain Godvalès, pour ceux qui ont un peu de mémoire. C'était juste avant Mosconi.
Voilà. Et c'était vraiment encore une natation, je dirais, entre guillemets décontractée. Godvalès disait qu'il buvait du vin de temps en temps, entre plusieurs entraînements. Mais c'est sûr qu'il ne faisait pas les mêmes temps. Ceci dit, c'était très impressionnant parce que c'est un temps qui n'est jamais fait. Mosconi a battu les 2 minutes aux 200 mètres, puis un peu plus tard les 4 minutes aux 400 mètres. On se disait chaque fois, mais c'est pas possible, jamais on peut faire ça. Et puis si le mur tombe, et on passe à l'étape suivante.
C'est un peu l'aventure que vous avez vécue en fouillant dans le ciel pour aller chercher, non pas des étoiles, mais des planètes autour des étoiles. Parce que vous, il y a longtemps que vous êtes sur ce sujet-là.
Ouais, c'est-à-dire que tout le monde rêvait de trouver des planètes. On se pose la question de la vie dans l'univers et on se dit la vie, ça doit passer sans doute par des planètes, ce qui n'est pas forcément vrai. Il y a eu des écrits fabuleux de vie hors planète. Mais ceci dit, donc les planètes, c'était le rêve pratiquement de tous les astronomes, mais tellement difficile à atteindre que des gens, là, au siècle dernier, ont passé toute leur vie à les chercher, à trouver et finalement à annoncer des fausses planètes, puisque c'était si dur à trouver.
Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'imaginaire des chercheurs que vous êtes, parce que moi je me souviens d'émissions il y a 10 ans, 12 ans, où quand on disait, bon, ça semble évident que puisque y a plein d'étoiles dans le ciel, que chaque étoile est un soleil, la probabilité qu'il y ait des planètes autour, et donc peut-être de la vie, c'est une probabilité qui était très forte. À l'époque, on nous envoyait bouler en disant, écoute, on n'a rien observé, donc fermez le banc, on n'en parle plus. Et là maintenant, on pose un télescope par terre, et hop, et une planète, et deux, et trois, et dix, et mille. Ça va vite.
Non, mais c'est ça. Une fois qu'on a atteint une limite, parce que tant qu'on l'a pas atteinte, on voit rien. Puis brusquement, on se met à découvrir, et là, brusquement, c'est comme si on avançait avec un brouillard, et le brouillard s'estompe petit à petit, et on commence à voir tout ce qui était caché derrière. Et c'est souvent très brutal. Tant qu'on n'a pas atteint un seuil, aucune planète n'est détectée. Et pourquoi, à l'époque, on était très réticents, c'est qu'on disait, mais tant qu'on n'en a pas détecté, peut-être qu'elle n'existe pas, on ne sait pas. Et le seul exemple qu'on avait, c'était le système solaire, mais il était peut-être tout à fait unique dans l'univers.
En même temps, ça aurait été impensable d'avoir autant d'étoiles de soleil et pas de système...
Ça aurait été impensable, mais on a des surprises, on a vraiment beaucoup de surprises. Entre autres, là, on en arrive à une surprise continuelle avec les exoplanètes, c'est qu'au début, on s'est dit, on trouve 2-3% d'étoiles ont des planètes, avec les efforts de recherche qu'on fait. Mais maintenant, on commence à voir des planètes de plus en plus petites. On ne dit pas que c'est plus 2 ou 3% des étoiles. Maintenant, on dit que c'est 30-40% des étoiles.
Oui, donc, le pourcentage montre. Oui.
Pratiquement, on peut déjà le dire, toutes les étoiles ont des planètes.
C'est juste pour faire le lien avec la natation, ensuite on va respirer un petit peu. Parce que...
on est en apnée.
Est-ce que... Oui, exactement. Est-ce que... Il nage vite, fais gaffe.
Est-ce que ça pourrait exister une planète océan, justement, où on ne pourrait faire que nager pour vous?
Oui, ça c'est la proposition d'Alain Léger. Il a évidemment prospecté dans le sens de comment faire un nouveau système, une nouvelle planète originale, différente. Il y a eu beaucoup de propositions, mais celle-là est très intéressante parce que un peu plus grosse que la Terre, on sait qu'elle risquera de tenir beaucoup plus et de ramener beaucoup plus d'eau autour d'elle. Et si elle est dans un endroit chaud, elle serait entourée entièrement d'un océan qui peut être même gigantesque. Et on pense qu'il y a même un satellite de Jupiter qui serait un peu une petite planète, entre guillemets, océan, qui est Europe, parce qu'on est quasiment convaincu que Europe est entourée d'un océan glacé à la surface, mais dessous, il y a un énorme océan.
Alors il y aurait peut-être de la vie, alors?
Ah bah, il y a toutes les chances qu'il y ait de la vie, d'autant plus que c'est un endroit qui a 4 milliards et demi d'années, qu'il y a des sources de chaleur certainement à l'intérieur, puisqu'on a Io à côté couvert de volcans, et l'intérieur d'Europe doit être très actif aussi, et par conséquent, mais je peux pas le dire, tant que j'y suis pas allé, c'est comme les planètes, il faut aller le voir.
Méga avec notre invité Alfred Vidal-Majar. Alors là, bon, cette planète qu'on a donc trouvée cette semaine, donc Exo-7b, enfin on l'a trouvée cette semaine, ils l'avaient repérée depuis longtemps, mais ils ont mis du temps à nous le dire pour être vraiment sûrs, hein, parce que vous êtes un peu cachotiers, vous les astrophysiciens.
On est prudent, pas cachotiers.
Bon, et on va dire prudent. Donc une super Terre, une température de 1000 à 1500 degrés à la surface, probablement de la lave en fusion. Là, apparemment pas de conditions de vie possibles, imaginables.
Oui, réponse oui, a priori, mais il faut être toujours très prudent. C'est pas de la prudence, là. C'est que tant qu'on ne sait pas, il peut y avoir des choses étonnantes. Exemple, Mercure. On pourrait dire Mercure est une planète très proche du Soleil, extrêmement chaude, totalement inhabitable, sans atmosphère. Pourtant, il semblerait que sur Mercure, il y ait des cratères sur les pôles qui ne voient jamais le Soleil. Et au fond de ces cratères, il se pourrait qu'il y ait de la glace gelée, c'est-à-dire de l'eau disponible quelque part, et peut-être même, pourquoi pas. Et la vie, on ne sait pas non plus ni comment elle est apparue, ni comment elle se développe, ni comment elle s'adapte, ni comment elle fonctionne. Donc, on n'a qu'un exemple sur Terre, et sur Terre, c'est impressionnant ce que la vie a été capable de se nicher quasiment partout. Mmh. Aussi bien dans l'atmosphère que des endroits radioactifs, que dans les profondeurs à très haute pression, on trouve la vie partout, partout, partout. Donc, bon, pourquoi pas. Et un endroit pareil, bon, il est sage de répondre non, il n'y a pas la vie, mais... Allez savoir.
Enfin, en tout cas, vous avez publié il n'y a pas si longtemps, ça a été réédité en poche en 2005, c'était Il pleut des planètes, donc c'était Chachette Littérature. Ça, clairement, c'est votre profession de foi. Maintenant, plus ça va aller, plus on va en trouver.
Ah bah oui, d'ailleurs le livre, je l'ai publié juste 4 ans après la première planète, donc on en était à 17. Et aujourd'hui, on a dépassé les 330 et quelques, donc c'est sûr que il pleut, et d'ailleurs dans le livre, je l'avais déjà dit, non seulement il pleut, mais bientôt ça va être un orage, il va falloir... sortir les palmes et les tubas.
Sans révéler des grands secrets.
Si.
Qu'est-ce qui fait au départ que, bon, vous n'alliez pas être champion du monde de natation, mais pourquoi vous devenez astrophysicien? Parce que faisant Polytechnique, il y avait un certain nombre de possibilités pour vous.
Ah oui, d'autant plus que j'ai des amis qui ont vraiment fait autre chose et vraiment autre chose. Donc je ne vais pas détailler là-dessus, mais pourquoi j'ai fait ça, je crois que c'est le hasard. Le hasard fait dans notre vie qu'on côtoie quelqu'un, on rencontre quelqu'un d'autre. En gros, on m'a dit, j'étais là en train de chercher un travail, tout bêtement, et un ami m'a dit, mais tu veux pas, je suis rentré dans un laboratoire, on cherche quelqu'un pour construire un satellite. Alors c'était dans les années 64, 65. Et il n'y en avait pas beaucoup de satellites à cette époque. J'ai dit, oh ben ça alors vraiment, c'est, j'y aurais pas pensé, franchement. Alors je suis allé voir, et puis une fois que je suis rentré là, j'ai fait un satellite, je l'ai lancé. Dessus, j'ai envoyé un message à l'univers où j'ai mis « T'as le bonjour d'Alfred » au cas où.
Ah, vous avez osé quand même,
j'ai
d'accord.
Osé. Ouais, ouais. Et bon, je me suis amusé.
Toujours pas de réponse.
Il est où ce message aujourd'hui?
Malheureusement, il s'est désintégré, parce que ce satellite n'était pas très haut, il est retombé dans l'atmosphère, mais j'ai profité d'autres occasions pour envoyer d'autres messages.
Ah, quand même.
Mais c'est des messages totalement à soi-même. Si je dis « T'as le bonjour d'Alfred », ça veut bien dire que je ne sais pas quoi dire d'autre, en fait.
Donc si on vous écoute, là, vous cherchiez vaguement du travail et vous vous retrouvez astrophysicien à la recherche de planètes?
Pratiquement oui, puisque on m'a proposé de construire un instrument, je l'ai construit, on l'a lancé, j'ai assisté au lancement de la NASA, voire un lancement aussi, c'était des choses. Enfin, c'était une vie passionnante et à l'époque c'était pas du tout banal, donc c'était extraordinaire. Et puis ensuite j'ai arrêté un peu le spatial parce que c'était un investissement, des échelles de temps considérables. On concevait un instrument, mais on avait des résultats entre 5 et 10 ans plus tard, donc alors j'ai été vers les observations au sol, et au sol, alors là c'est aussi magnifique, on fait des choses, mais presque d'une minute à l'autre. Là j'ai eu l'idée de regarder la Terre comme une planète extrasolaire. Ça c'est une idée, bon, qui m'est venue il n'y a pas longtemps. Ouais. Je l'ai fait la proposition au télescope de Hawaï, elle a été acceptée, l'observation va être faite le 9 février prochain, on va regarder l'éclipse de Lune. En fait l'astuce est toute bête, c'est en regardant la Lune, on voit le soleil à travers l'atmosphère de la Terre, puisque la Lune ne sert que de miroir.
C'est-à-dire, vous êtes l'extraterrestre de vous-même, quoi.
Voilà.
Bravo.
Je me regarde moi-même comme une planète extrasolaire.
Et vous voulez apprendre quoi avec ça?
Il y a plusieurs choses. D'abord,
est-ce qu'on est repérable?
D'abord, et puis surtout, le jour où on va voir des terres, est-ce qu'on sera capable de se dire, oui, c'est vraiment une terre, oui, il y a vraiment la vie dessus? Est-ce qu'on est capable de réaliser qu'il y a la vie sur Terre en la regardant comme une planète extrasolaire? Ce sera ça l'enjeu. Mmh. Et si on arrive à le faire, on aura entre les mains les outils vraiment très affûté pour dire un jour, ah tiens, on en a vraiment trouvé une autre et il y a la vie dessus.
Mais le spatial a l'air quand même de vous... Parce que on a bien compris, vous n'étiez pas un petit garçon en train de lire Jules Verne et de rêver d'aller conquérir les étoiles.
Si.
Ah si, ah quand même.
Ah si, aussi, oui.
Ah oui, c'est pas donc qu'une opportunité de travail pour aller faire des satellites.
Oui, mais je pensais pas que c'était sérieux. Je pensais que faire du travail comme tout le monde, c'est-à-dire j'allais diriger une entreprise, devenir directeur de banque, manager. C'était dans cette voie que je pensais aller, puis je trouvais rien.
Vous avez marié, en fait, les désirs de l'enfant qui rêvait.
Ah ouais, j'ai toujours gardé ça, ouais, ça c'est sûr.
Mais vous êtes allé jusqu'au bout, parce que mon petit doigt m'a dit que vous avez même été candidat cosmonaute.
C'est vrai. Ah bah oui, parce qu'une fois qu'on est rentré dans ce jeu, en plus, on a proposé un jour, qui veut être candidat pour aller dans l'espace? Évidemment, là j'ai bondi. Et je me disais, j'ai fait, bon, pas mal d'études, j'ai fait du spatial, j'ai lancé un instrument, j'ai déjà envoyé un message, peut-être que je serais capable aussi d'être cosmonaute. Et bon, je me disais, ma candidature est incontournable, c'est sûr qu'on va me prendre. On m'a bougé dès la première seconde.
Ben oui, mais parce que forcément, celle qui a gagné, c'était Claudie Agnoret, vous n'aviez aucune chance.
Ah bah ça c'est clair.
Micro-méga sur RFI, on parle exoplanètes, on parle astrophysique avec Alfred Vidal-Madjar. Donc après cette découverte de coraux, est-ce que ça veut dire aussi maintenant, Alfred Vidal-Majar, qu'on va chercher des traces biologiques, on va voir des planètes de plus en plus, vous nous l'avez dit, d'accord, il va en tomber des pluies, des orages même, mais ce qu'on va chercher maintenant, c'est les traces biologiques, les traces de vie, c'est ça?
C'est ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une planète, il faut être capable de regarder son atmosphère, la composition de son atmosphère, parce que c'est des objets tellement loin qu'on n'en a presque pas d'image. Heureusement, depuis quelques mois, on a les premières images, et entre autres l'image de la planète Beta Pictoris. Alors évidemment, la planète autour de l'étoile Beta Pictoris, qui est pour moi un bonheur total.
Ah oui, parce qu'il faut rappeler quand même, et c'est pour ça qu'on est très fiers de connaître Albert Vidal-Majar.
Alfred, pardon.
Ben oui, mais parce que je pensais à Einstein et au Nobel tout de suite. C'est qu'en novembre 80, vraisemblablement, puisque vous aimez bien les certitudes, alors vraisemblablement, vous avez identifié celle dont on parle depuis novembre 2008, et ouais, qui est donc Beta Pictoris B. B, c'est le nom de la planète autour de l'étoile,
voilà,
Beta Pictoris.
Mais
qu'est-ce
image.
Qui vous manque maintenant pour être sûr que c'était bien vous
C'est simplement, on a deux points où était la planète, une fois devant, une fois sur le côté, il faut attendre un peu, elle tourne en 17 ans à peu près, ça on en est quasiment certain.
Mais et vous avez raté un coup.
Et on a raté un coup, elle est passée en 99 devant son étoile, mais là on attend 2015 où elle va repasser, et là si c'est le cas... C'est alors.
Et là, on vous appellera Albert, ce coup-là.
Ah, là, on pourra m'appeler Albert.
Voilà, ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, on vous appelle pas de temps en temps Albert, par votre goût prononcé pour les autres cultures, notamment la culture liée au vin.
Ah, mais je. Hein? Parfois,
si,
oui, on m'appelle Arthur. Mais parce que c'est vrai que par mes conférences, je rencontre des gens extrêmement variés qui ont tous une propriété, c'est une curiosité incroyable. On échange des choses, et alors une fois j'ai rencontré un monsieur François Mauss, qui est le président du grand jury européen des vins, et qui m'a fait découvrir, mais alors encore un monde nouveau, une autre planète, ça, la planète vinicole, mais c'est un rêve. Par exemple, là récemment, il me fait goûter, alors moi je connaissais le vin rouge, le vin blanc et le vin rosé. Eh ben non, c'était du vin jaune. Il y a du vin jaune aussi, qui a un goût de noix magnifique, qui vient du Jura. Et là, au château de Chavannes, le vin de monsieur Jean Macle, 1988.
Yeah, yeah.
Alors là, il me dit, mais c'est un vin, c'est pas croyable. Un vin pareil, il peut être centenaire et on croit avoir devant nous un jeune homme. Quand on vous raconte des choses comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Ça déclenche tous les fantasmes.
Là vous envoyez un paquet d'étoiles. Là.
C'est magnifique.
Ça nous laisse rêveurs et ça nous laisse malheureusement peu de temps pour quand même parler d'un livre qui est sur le feu, je crois.
Ah oui.
Alors oui, parce que là, on vous écoute. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement curieux. Vous êtes quelqu'un de drôle. Vous vous intéressez à un tas de choses, etc. Et puis, en fin de compte, là, deuxième petit doigt, le livre que vous êtes en train d'écrire, le titre, ça pourrait bien être quelque chose comme « La Terre est foutue, il faut partir ». C'est un petit peu tristouné quand même comme vision.
Oui, mais...
Vous pensez vraiment qu'il y a un problème là?
Ah bah, je suis
lié à l'écologie,
pensée,
oui, d'accord. Mais là, c'est...
D'ailleurs, j'ai vu un livre qui s'appelle « L'espèce humaine va disparaître,
oui.
Bon débarras ».
Oui, oui.
Oh, j'ai adoré ce titre.
C'est notre ami Yves Pacalet.
Voilà, c'est ça. Très très bon livre. Et c'est vrai, c'est pas la question d'être alarmiste, c'est que c'est, bon, la réalité. Quand on dit la planète est foutue, en fait, la planète s'en fout complètement. Vous savez, l'espèce humaine, effectivement, elle peut disparaître. La planète, elle va continuer. Et il y a eu des tas d'espèces qui ont disparu, il y en aura d'autres.
Mais
l'espèce humaine,
elle
va disparaître. En plus, on le sait, il n'y a pas une seule espèce qui ait survécu. Donc, on sait qu'on va disparaître. Où est le problème? C'est-à-dire qu'il y a un problème d'adaptation. C'est vrai qu'on détruit l'atmosphère, qu'on va détruire notre environnement. Mais dès qu'on regarde cela d'un peu loin et un peu objectivement, on se rend compte que c'est dramatique. Ça va être dramatique. Mais
et votre message d'espoir, c'est il faut partir.
Non. Le message d'espoir, c'est peut-être que dans l'espèce humaine, il y a une étincelle de quelque chose qui va permettre de s'en sortir. Mais rien n'est moins sûr et ça dépend d'une attitude collective et on est loin de même s'en approcher.
C'est ce que vous écrivez en ce moment, ça?
C'est le livre que je suis en train d'écrire, oui.
Qui sortira?
Fin 2009, je crois.
Bon, rendez-vous sur Micromega, en tout cas.
Merci Jean-Yves, merci Alfred Vidal-Majar. Donc vous avez le bonjour d'Alfred, c'est ça?
Voilà.
Le message
aux extraterrestres.
On va le renvoyer. Merci, à très bientôt. C'était Micro-Méga, l'actualité scientifique sur RFI, émission réalisée par Cécile Bonissi et mixée par Cyril Etienne. On se retrouve sur www.rfi.fr si vous voulez réécouter l'émission. Et puis vos messages à micromega@rfi.fr. Dans quelques instants, la synthèse de l'actualité. À bientôt.